bien, bonjour à tous et merci d'être là, de venir écouter mon parcours de vie qui est mon parcours et depuis 4 mois je prépare ça dans ma tête. Voilà, je l'ai juste mis à l'écrit ces derniers temps, mais ça donne l'occasion et le privilège de voir tout ce que Dieu fait et d'être extraordinairement béni, de voir sa fidélité depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et je suis très touchée, je considère vraiment comme un privilège, même si j'ai un peu la trouille, mais je trouve extraordinaire quoi, de voir la grandeur de Dieu dans ma vie et dans tout ce qu'il a fait et dans tout ce qu'il a relevé. Je commencerai par un verset de la Bible qui me porte encore aujourd'hui et qui a été le fil conducteur de tout ce que j'ai pu vivre et que je vais vous raconter. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Et c'est Jésus, la vie. Je suis née en 1962. Donc là, il y en a qui calculent combien elle a. 55 ans, je vais vous le faire court. J'ai eu le privilège de naître dans une famille plutôt sympathique, avec des parents qui s'aimaient beaucoup, qui en étaient même un peu exclusifs, mais je préférais ça quand même. Voilà, j'étais donc... la troisième ou la quatrième, je ne sais pas, parce que leur premier enfant était décédé. Et donc moi je suis arrivée parce qu'on m'a toujours expliqué, ce qui a été un petit peu difficile à faire après le lien sur le sens de ma vie. Je pense que ça a freiné beaucoup de choses et ça a été restauré et je vais vous expliquer comment. Mais cet enfant qui était mort, on m'a toujours dit que s'il avait vécu, je ne serais pas née. Quoi. Voilà, ma mère s'est fait soigner pour m'avoir, enfin, parce qu'ils en voulaient trois. Et ça a été pour moi quelque chose d'assez difficile de grandir avec cette idée, de savoir si vraiment... j'avais été désirée, ça c'est sûr, mais ça a été compliqué, j'y reviendrai dessus. Donc une famille super, un père très entreprenant, costaud, grand, ne disant jamais qu'il m'aimait, mais je savais très fort qu'il m'aimait, parce qu'il le montrait. Très entreprenant, parce qu'il avait donc une entreprise de produits agricoles, et il était viticulteur, il faisait beaucoup de choses. Et une maman engagée à ses côtés dans l'entreprise qu'ils avaient réalisée ensemble. Donc moi, je suis arrivée en 62, bien 10 ans après mon frère et ma sœur. Donc beaucoup de... Et puis dans les années des 30 glorieuses, donc tout allait bien. Extraordinaire, l'entreprise marchait bien. Moi, j'ai bénéficié les 10 premières années de ma vie, les 13 même, d'une vie assez aisée. Mes parents venaient d'un milieu modeste tous les deux. Ils avaient découvert les vacances à Cannes. Mais... imaginez que c'est des gens qui venaient vraiment d'un milieu modeste, donc on allait ensemble 3-4 jours, et moi j'étais la dernière, donc je suivais. Elles étaient plutôt agréables. Culture cévenole, pleinement, parce que je crois que mon père était de la vallée Versumène, ma mère, plutôt de Chambourigo, donc vous voyez, ils étaient pas quand même... Voilà. Ils s'étaient rencontrés à l'occasion d'un groupe de jeunes chrétiens, parce qu'ils étaient tous les deux dans une église évangélique, à ce moment-là, et ils s'étaient rencontrés là, et donc ils s'étaient mariés, donc ils avaient eu après leurs enfants. Et moi j'arrive là, dans une famille où j'étais aimée, on m'a beaucoup appris de choses, le sens du travail, énormément, avec des choses positives et des choses plutôt négatives qu'il a fallu déposer au cours de ma vie. Mais je rends grâce à Dieu, même pour leur côté, parce qu'on est tous parents, enfin ceux qui sont parents ont fait aussi des erreurs. Et ils en ont fait, mais ils n'ont pas fait que ça aussi. Voilà. Donc, une enfance heureuse, parce qu'à la campagne, au milieu des vignes, des oliviers, je partais le matin avec mon vélo, je revenais à midi, après je repartais l'après-midi, je faisais des cabanes, il y avait des copains, les copines, on allait au Gardon. Je sais pas, on me faisait confiance, quoi. J'ai réalisé ça après, hein, pas sur le moment, mais voilà, il fallait juste que je dise à quelle heure j'arrivais, que je fasse les choses qu'il y avait à faire à la maison, mais super, quoi, une autonomie extraordinaire, une enfance de bonheur, quoi, vraiment. Avec plein de gens qui s'occupaient de moi aussi, une tante qui était célibataire et que des fois j'allais égayer un peu sa vie qui ne l'était pas. Voilà, mais vraiment une vie tranquille avec une vie d'église qu'ils avaient et une vie de paroisse très animée à laquelle j'étais très attachée et j'étais vraiment, pour moi c'était le bonheur d'aller au culte dimanche matin. Ça n'a jamais été compliqué parce que cette vie-là, elle était... Il y avait l'école biblique, on appelait ça le catéchisme, il y avait les scouts, donc ça a été important. Et tout ce que mes parents ont mis en place dans mon éducation allait toujours dans le même sens. Et donc, quand ma sœur s'est mariée, il a fallu que... Enfin, on était sur Nîmes, j'étais en 6e, et puis en 5e,
Mes parents ont cru bon, ils avaient certainement raison. Je n'ai pas regretté de me mettre au pensionnat Marie-Durand, qui n'existe plus. L'école reste, mais pas le pensionnat. Donc 8 ans de pensionnat, quand même, ça marque. Et moi, j'arrivais à la ville, parce qu'on appelait ça un peu comme ça, Nîmes. Et j'avais vraiment même des mots patois qu'on avait francisés. Je pensais que ça existait dans le dictionnaire. Donc je revenais un petit peu de cette culture avec mes valeurs. Et surtout, très attachée à toujours rendre service. Parce que ça, c'était rendre service dans la famille. Quitte à s'oublier soi-même, il fallait quand même rendre service. C'était important. Au scout, on rend service, on apprend ça. Dans la famille où j'étais, on apprenait à rendre service. Et à être au service des autres. Un petit peu excessivement des fois. Mais c'était comme ça. Et ça, ça a marqué ma vie, évidemment. Donc j'avais l'image de moi, quand je suis rentrée au pensionnat en 5e, de... J'explique, parce que dans ce pensionnat, il y avait des filles qui venaient d'Afrique. J'étais une des premières à arriver en ayant des parents, un père, une mère. Voilà, parce que les gens allaient à l'internat du lycée. Donc là, ce pensionnat évangélique, mes parents, pensant évidemment que ça correspondait au choix éducatif qu'ils avaient fait, ben voilà, c'était... C'était difficile, quoi, parce que là, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, des filles qui venaient, des quatre coins du monde, ça, ce n'était pas le plus gênant et pas le plus difficile à s'adapter, mais des filles qui n'avaient pas eu ni père ni mère, qui étaient envoyées par la DAS, à l'époque, on disait comme ça, et qui étaient là. Et là, entre ça et la découverte de la vie à la ville, ça a fait un choc. Mais j'avais une image de moi quand même assez sensationnelle, puisque j'étais pas très compliquée, très entière sûrement, assez têtue, mais pas compliquée non plus. Donc on me demandait de faire quelque chose, je le faisais. On me demandait d'aller visiter une personne âgée, je le faisais, j'étais assez sympa. Et j'avais une image de moi quand même, vous voyez, je pensais que Dieu avait de la chance de m'avoir. Et j'étais un peu sur cette démarche quand même d'avoir au fond de moi cette idée toujours présente de ce frère qui... S'il n'était pas mort, je ne serais pas là. Donc ça, c'était compliqué dans ma tête. Et aussi d'avoir une envie de servir Dieu dans les valeurs qu'on m'avait transmises, de travail, de respect, d'honnêteté. Et de penser que j'avais presque une petite supériorité par rapport aux filles avec qui je vivais dans la semaine quand même. Parce que j'étais bien, quoi. Voilà. Elles, c'était pas top. C'était un peu comme ça que je me situais, en toute humilité. Voilà. Et donc, j'étais quand même dans une vie très active parce que je faisais du sport, je faisais du scoutisme, je faisais de la musique. Et quand j'arrivais le week-end, le samedi midi, donc je repartais lundi, enfin, c'était quand même assez dur, quoi. Maintenant, je m'aperçois que je ne sais pas si j'aurais pu faire vivre ça à mes enfants. Bon, moi, je l'ai vécu, voilà. J'ai appris à faire beaucoup de bêtises aussi. C'était bien, enfin, c'était une vie collectivité, quoi. Voilà. Le soir, on avait le culte hein, au pensionnat Marie-Durand avec les sœurs de Pomerol. Voilà, avec des filles qui n'avaient pas l'habitude d'entendre parler de l'évangile. Moi, j'arrivais de ce milieu-là, donc ça faisait écho. Et elle, non, donc je ne vous dis pas les plaisanteries qui se faisaient à ce moment-là, quoi. Voilà, mais j'ai appris, ça m'a ouvert. Et ça m'a conduit à tout un questionnement en moi, d'avoir toujours cette intention d'accorder mes actes et mes engagements à ceux qu'il y avait à l'intérieur. Mais à l'intérieur, il y avait quand même beaucoup de choses qui manquaient. J'avais commencé une scolarité éblouissante, jusqu'à la 6e, et à la 5e, ça a été une fracture énorme, vraiment. Ça a été compliqué. Compliqué parce que j'avais un professeur d'espagnol qui m'avait dit que je serais bonne qu'à faire des ménages. Et je partageais ça ce matin avec Franck. Et je me disais, quels dégâts ça peut faire quand on y croit. Et toute cette enfance-là, et toute adolescence qu'on peut vivre, tout ce qu'on entend, de ce qu'on nous dit de nous, et bien à un moment donné, ça pousse mal, et ça fait mal. Et c'est quelque chose qui m'a fait souffrir longtemps, de penser qu'à la fois, mes parents, je crois, de par ma vie, les choix de vie qu'ils avaient, m'avaient confortée, et j'avais quand même assez d'assurance dans mon engagement de scout, tout ça. Ça allait très bien, c'était pas un souci. Mais alors, intellectuellement, il n'y avait rien, quoi. Je pensais que je n'étais pas capable de réfléchir, que, voilà, et je le masquais très bien. Personne ne le voyait, et personne n'a jamais trouvé. Donc ça, c'était parfait. Au cours de mes années scout, j'ai rencontré plein d'amis, je me suis attachée, c'est là que j'ai découvert vraiment l'amitié. Donc à ce moment-là, j'avais deux grandes amies, et c'était important pour moi, parce qu'elles étaient pour moi un vis-à-vis de ce que j'étais. Un jour, pendant un week-end scout, on m'a appelée, c'était un week-end à Alès, et puis ma sœur est venue me chercher, il n'y avait pas de portable à ce moment-là, elle est venue me chercher, elle m'a même dérangée, parce que j'étais bien moi. un dimanche en début d'après-midi en me disant « Écoute, le père est en train de faire sa dernière volonté, il faut que tu viennes. » Alors mon père avait 53 ans, hein, vous imaginez la situation, j'en avais 15. Bon, il avait beaucoup d'humour, il était très drôle. Pas toujours, mais des fois il était très drôle. Et du coup, on s'est mis à la pagnole. Hein. On était autour de son lit, je suis arrivée dans le village, on s'est mis dans sa chambre. Il était malade depuis une semaine, il avait une grippe, il était diabétique. Et il nous raconte que Dieu lui a montré qu'il allait partir. Et que, voilà, donc il dit ses dernières volontés à ma mère, à ma sœur. Il m'oublie un petit peu au passage, parce que je devais suivre ma mère apparemment, tout ça. Enfin bon, on l'a pris moyennement bien, parce qu'on s'est dit, bon, il est rigolo, mais enfin, c'est pas très, très drôle, quoi. Et puis à ce moment-là, mon père avait fait faillite 2 ans après de son entreprise, qui était quand même assez intéressante et qui m'a bouleversée aussi de voir voilà, qu'on pouvait créer beaucoup de choses et puis les perdre. Ça m'a aidé à ne pas m'attacher à l'argent, ça c'est clair. Et une semaine après ça, un dimanche soir, le téléphone sonne, c'est l'hôpital de Montpellier qui m'annonce, moi, hein, au téléphone, que mon père était décédé. Et là, tout d'un coup, c'est pas les pleurs, je crois, qui me sont venus, c'est qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Voilà, parce que il avait fait faillite, mais il avait été repris par une grande société de produits agricoles. Donc, jusque-là, rien ne manquait à la maison. Et on avait la petite station-service qu'il avait récupérée dans sa faillite. Et il avait racheté. Et ma mère travaillait là. Ma mère rentre, elle venait de servir un client. Et je lui dis, l'hôpital vient d'appeler, hein, aussi simplement que ça. Et papa est décédé. Ça a été très difficile. Les larmes, très sincèrement, je crois que mes larmes sont arrivées très, très longtemps après. J'étais sous le coup de... Ouais, de ce qui arrivait, de ce qu'il avait dit une semaine avant, de tout ce que ça peut bouleverser. Ça fait 40 ans de ça, donc ça fait loin. Quand je préparais mon message, je me suis dit quel sentiment il y avait. Mais le premier sentiment que j'avais, ça je me souviens très bien, c'était de dire on va y arriver. On va y arriver. C'était un peu comme ça, on va y arriver. J'ai pas eu le choix. C'était pendant les vacances donc, de février. Je suis pas retournée à l'école, j'ai dû y retourner après au mois de mai, juin, quelque peu. Enfin, j'étais en seconde. Et ma mère est tombée malade pendant un mois à la maison de santé. Elle a été hospitalisée. Je pense que c'était le contre-coup. Elle avait 47 ou 48 ans. Elle n'était pas vieille. Et donc, il y avait cette station à tenir. Et c'est moi qui la tenais à 15 ans. En vous le racontant, je me dis, mais quand même, j'aurais jamais... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, personne n'ait eu autour d'elle l'idée de dire, mais enfin, cette petite, il faut qu'elle aille à l'école et puis au pensionnat et puis reprendre son rythme, quoi. Non, là, j'ai arrêté l'école, 15 ans. Je l'ai repris après, mais... Voilà, et j'allais, je faisais mes commandes de gasoil, d'essence et du reste, comme une grande, quoi. Je pense que je suis passée là, de l'enfance à un peu adolescence, à l'âge adulte, enfin, à un âge adulte, de suite, quoi. C'est quelque chose qui m'a bouleversée, et j'étais toujours dans ce truc, on fait face, voilà. On y croit, on est fort, je suis quand même une personne solide, hein. Je vais y arriver. Et j'y suis arrivée, hein, du reste. Sauf que ça a créé chez moi beaucoup d'incertitudes, ce sentiment d'abandon quand même, d'avoir perdu mon père et d'être abandonnée aussi, pas du reste de la famille, parce que ma soeur venait le week-end me remplacer pour que je puisse aller au scout, donc ça c'était quand même une bouffée d'air frais, mais c'était difficile, quoi. Ça n'a pas remis ma foi en question, ni l'existence de Dieu en question, jamais. J'ai toujours su que Dieu existait, c'est quelque chose que j'ai jamais remis en question, mais quand même c'était difficile. Donc après ça... Donc, pour la petite histoire, je prenais le bus le matin, une fois par semaine, j'allais lui faire signer les chèques, elle me remplissait le bordereau, je revenais prendre le bus, et j'ouvrais la station à 7h le matin, je la fermais à 10h du soir, tout ça à 15 ans quand même. Après, j'ai eu 16 ans au mois de mai, mais c'était difficile. Et puis, j'ai fait un camp scout, le mois d'août, elle est partie se reposer aussi dans les Pyrénées parce qu'elle était fatiguée, et on assumait avec les copines, c'était très drôle, quoi. Mais bon, j'étais gardée, quoi, parce que j'avais de l'argent, enfin, j'avais pas beaucoup d'argent, mais je veux dire, j'avais des billets, on brassait beaucoup de choses, quoi. Donc ça, c'était vraiment, voilà, un moment de ma vie clé où on disait toujours, cette petite, elle est dégourdie. C'est-à-dire, on lui a pas trop donné le choix non plus d'être autrement, quoi. Voilà. Donc à la fois, c'est une force, hein, aujourd'hui, quand je l'analyse, et je trouve ça extraordinaire de ce que Dieu a fait comme ça, comme étape. Et à la fois, ça crée aussi des sentiments fragiles, hein, et des sentiments d'abandon réel, sur lesquels je me suis dit, il va falloir quand même que chaque fois, tu assures, quoi. Voilà. J'ai repris l'école, ça n'a pas été facile. J'ai donc redoublé ma seconde, puisque j'en avais fait que la moitié. même pas. Et là aussi, c'était difficile. Je masquais toujours à l'école le fait que je n'étais pas une super élève. Je ne travaillais pas, hein, en plus, donc je méritais ce que j'avais aussi. Hein. Mais j'y croyais pas. Je pensais que je n'arriverais pas à comprendre. Mais je me défendais, j'étais toujours déléguée de classe. Donc ça, ça allait. Je défendais mon biftec dans les conseils de classe. J'étais bonne en sport, en musique et en art plastique à peu près, et en français. Voilà, je dis ça parce que sur le petit prospectus que vous avez eu, il y a marqué CPE, et ça explique, ceci expliquera cela. Au cours donc de mes années scouts, où là j'étais vraiment engagée, et engagée aussi dans mon église, j'ai découvert au travers d'une cheftaine scout, Anne-Laure, qui est par là, le message de l'évangile comme je ne l'avais jamais entendu, extraordinaire de pouvoir présenter un Jésus qui n'était pas juste quelqu'un à suivre comme ça, avait des valeurs et des belles valeurs de fraternité, d'amour, de bienveillance, de gentillesse, de tout ça. Mais c'était un Jésus qui venait me dire qu'il m'avait aimé le premier, la première. Et moi, je pensais que Dieu avait la chance de m'avoir et que je l'avais vraiment aimé avant lui. Ça, c'était une certitude. Et ma conversion, le bouleversement que ça a fait dans ma vie spirituelle, c'est ça. C'est vraiment d'être bouleversée par cette idée que bien avant tout ça, Jésus m'avait désiré. Donc l'histoire du frère là, il y avait un lien qui se faisait, une restauration quoi. Choisis la vie, et la vie c'était Jésus. Et je me souviens très bien de ce soir là où j'ai donné ma vie à Dieu en disant mais Seigneur, moi je m'abandonne quoi. Et lâcher prise pour moi c'était difficile parce que c'était pas l'éducation que j'avais reçue. On devait pas dire qu'on devait pas se plaindre, on devait pas dire qu'on avait mal, on devait foncer, on devait traverser une épreuve. Mes parents l'avaient fait des fois avant et ils en témoignaient souvent et tout ça. Et là, ce lâcher prise m'a complètement bouleversée. Et je me souviens avoir repris le bus pour rentrer chez moi le dimanche matin, c'était un soir de Pâques, où j'étais bouleversée de la paix. Jamais j'avais goûté cette paix. J'avais été à la communauté de Pomerol, qui est une communauté que je bénis, parce qu'elles m'ont beaucoup amenée, ses sœurs, au travers du pensionnat notamment. Mais j'étais touchée de voir que Jésus était la paix, quoi. Et que là, je pouvais ne plus me sentir abandonnée. Ça, c'était extraordinaire. Et surtout que c'était sa vie, c'est lui qui faisait les choses. C'est cette force de vie, cette force de sa résurrection sur la mort, sur tout ce qui me gênait, sur tout ce qui était lourd, tout ce qui était pesant. Et là, tout d'un coup, tout devenait léger, quoi. La vie, elle n'avait pas changé. Mon père n'était pas revenu. Il était bien mort. J'avais une santé fragile. Bon, j'ai loupé de le dire, mais j'avais une santé fragile. J'ai toujours une santé fragile, notamment du dos. Et voilà. Et donc, rien n'avait bougé, mais par contre, ce qui avait bougé, c'était l'intérieur. Donc moi, je suivais Dieu. Après, j'étais avec Dieu et Dieu était en moi. Et il est en moi depuis. Et ça, c'est une force extraordinaire. C'est vraiment... voilà. Après, ce qu'on fait dans la vie, les choix qu'on fait, les mauvais choix qu'on fait, ça n'empêche en rien cette réalité que Jésus vit, qu'il est là, qu'il est celui qui console et celui qui restaure. Voilà. Choisis la vie. Donc ça, c'était la période où vraiment, je peux dire ce verset de la Bible qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi ». Et ça, toute mon enfance et mon adolescence, au pensionnat, au scout, à l'église, mon oreille avait entendu parler de toi, les textes de la Bible, les histoires de la Bible, tout ça par cœur, je connaissais, bien rangé et tout. Mais là, mon œil voyait Jésus. Alors, pas physiquement, évidemment, mais je réalisais, j'étais pleinement dans cette... communion avec lui, où Jésus m'aimait et où je pouvais être aimée et où j'étais aimée depuis longtemps, où j'avais été désirée depuis longtemps, et les choses se restauraient et mon positionnement de vie a changé. Et tout ce que j'ai pu après ce soir-là vivre a été et mon choix de vie, c'était toujours à l'époque, j'avais envie d'aller voir Mère Teresa, je trouvais qu'elle faisait un boulot super, c'est vrai d'ailleurs, c'était vrai, et je voulais aller à l'étranger, être une grande missionnaire, tout ça. Bon, ça alimentait beaucoup ma réflexion, mais pas à côté de Dieu, pas pour Dieu, mais avec, quoi. Et ça, c'était fort, c'était très très fort. Et ça l'est toujours. Donc, mes amitiés que j'avais fait au scout ont été des amitiés nécessaires et indispensables pour traverser, voilà, le deuil de mon père notamment, et puis aussi tout ce que je pouvais se poser comme question. Et on était tout un groupe à se poser un peu les mêmes questions, voilà, sur le sens de la vie et tout ça. Et on a été tout un groupe scout à rencontrer à quelques mois d'écart le Seigneur d'une manière ou d'une autre, avec le témoignage de l'une, de l'autre, et avec une authenticité de vie avec Dieu. Et on grandissait comme ça. Et puis l'Église était à ses débuts, donc C'était merveilleux, quoi. On était, enfin, ça l'est toujours, mais c'était, voilà, on était, je sais pas, 25, 30, pas plus. Donc, voilà, on avait une place, on était chouchoutés, on prenait soin de nous, on nous parlait beaucoup. Enfin, il y avait énormément d'empathie et de compassion. Et mon cœur, toujours, c'était de se dire, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, l'école, je misais pas trop là-dessus. J'avais commencé mes études d'infirmière. J'avais raté mon bac à un point près, juste pour la boutade. C'était du grand n'importe quoi. J'aurais eu mon bac juste si j'avais choisi option musique. On avait choisi option couture. Hein, donc, on avait les trois chrétiennes qu'on était dans la classe. On avait fait de la musique. Moi, j'avais fait 10 ans de piano. Voilà, j'aurais eu gagné, gratté un peu des points et j'aurais eu mon bac. Non, on avait que couture. On était super bonnes. Donc, bon, j'ai pas eu la moyenne. Bon, bref. Mais tout ça pour dire que des fois, la vie, elle se joue pas à grand-chose. J'ai réussi le concours d'infirmière, donc j'ai fait ça. Et puis, au cours d'une manœuvre au mois d'avril d'une malade, que je fallait faire sa toilette, donc je la tenais. Je suis tombée à la renverse et je me suis fait très très mal au dos. Donc j'étais hospitalisée pendant 3 mois à Montpellier. Et là, une de mes amies qui était au scout, avec qui on était en train de parler aussi de projets, de peut-être mettre en place des colos, de voir que tout ce que nous, on avait vécu, et de maintenant le vivre avec Dieu, c'était important, et que comment on allait pouvoir bénir aussi les enfants, les jeunes, tout ça. Donc on était dans cette réflexion. Et cette amie, elle faisait ses études à Montpellier, et elle venait me voir tous les jours à l'hôpital, tous les jours. Voilà, et puis, je sais pas, quelques temps après... Elle avait l'art de trouver toujours un cantique. À l'époque, il n'y avait pas de moins de trucs que maintenant. Mais du coup, au téléphone, elle me passait des cantiques. Enfin, bon, c'était drôle, quoi. Et c'était voilà, une proximité importante. Et quand moi, j'ai vraiment pensé que Dieu m'appelait sur l'enfance et sur l'adolescence, voilà, de le servir dans ce travers-là, elle m'a suivie. Donc, on a commencé ensemble une œuvre de centre de vacances en 84. On a fait 84, 85. Et puis, donc, on a commencé à préparer la colo de 86 ensemble, dans les grandes lignes, former une équipe avec nous, etc. Et là, ça a été évidemment compliqué parce qu'elle est partie donc, faire un stage à l'étranger et elle est décédée d'un accident de cheval. Ce qui a été, comment vous dire, quand moi j'avais 24 ans, elle en avait 22, enfin, ça casse à la fois un élan, une jeunesse. J'étais pas trop dans une dimension, je ne suis toujours pas de me dire pourquoi les choses arrivent. C'est pas mon truc, c'est pas une habitude que j'ai dans ma tête. Mais toutefois, quand même, ça fracasse un peu quand même. C'était dur de se dire il faut continuer, quoi. Alors il y avait toujours un peu cet élan quand même de ma famille de dire on y va. Mais si Jésus n'avait pas été là, si sa force ne m'avait pas soutenue, si sa consolation, et sa consolation concrètement, elle est dans la paix qu'il donne, dans la force qu'il donne, dans le vouloir avancer malgré ça, dans l'amour des uns et des autres, dans les autres amitiés qui m'ont porté. Voilà, ça a été l'occasion aussi, parce que voilà, ma mère est arrivée à ce moment-là pour m'aider à faire la cuisine au colo, donc ça a été aussi un changement, tout ça, bénéfique, toutes ces consolations, mais ça a été un long deuil, vraiment, un deuil très long, qui a duré une dizaine d'années. Un jour, à une colo, je me souviens, je me suis dit, ben voilà, là c'est terminé, je suis passée à autre chose. Mais ça a été long, cuisant, difficile, j'ai appris à crier ma douleur toute seule, et dans ce cri, j'ai réalisé que Dieu ne m'empêche pas de crier, que j'avais mal, que je n'avais plus ce vis-à-vis, parce qu'on fonctionnait bien ensemble, ça marchait bien. Elle me disait, tu marches devant, je suis derrière, je te dirai. Et elle me disait, des fois tu cries trop fort, tu es trop dur avec les enfants, ou, là tu as été injuste, tu es mauvaise perdante, enfin, tout ça. Voilà, mais une belle amitié, et franchement ça a été difficile. Alors, comment choisir la vie? Choisis la vie, dit Dieu, comment choisir la vie? Dans ces tremblements de vie, dans ces tremblements de terre, dans ces choses qui nous bouleversent. Juste de dire, Jésus, tu vois ma souffrance, tu vois mes pleurs, mais tu viens, et c'est vrai que Jésus vient, je ne sais pas concrètement vous dire comment, mais il le fait. Je vais être un peu plus gaie, je me suis mariée le 1er mai 1992. Alors, mon mari dit souvent... On s'est mariés le 1er mai, comme ça on n'oublie pas notre anniversaire de mariage. Bon, c'était possible. On a assez d'humour pour ça. Voilà, donc je me suis mariée en 92. On s'était rencontrés en colonie de vacances. Donc on connaissait beaucoup de choses de l'un et de l'autre, parce que l'écolo, c'est vachement bien pour ça. C'est-à-dire du matin au soir, du soir au matin, on voit les défauts et les aspects intéressants. Mais moi, je ne voyais beaucoup de choses positives, évidemment. Trois beaux enfants après cette union, qui sont arrivés assez vite, en 93, en 96 et en 98. Magnifique, hein, parce que j'avais été à 23 ans opérée des ovaires et le médecin qui m'avait opérée m'avait dit, qui avait été d'une délicatesse extraordinaire, m'avait dit, bon, je suis arrivée à sauver qu'un quart d'ovaire, donc vous êtes mariée? Bon, non, je suis mariée à 30 ans. Voilà, donc c'était un peu... Mais il me dit, parce que quand j'étais opérée de ça, sur ma table de nuit, j'avais un livre qui s'appelait « Persécuté mais non abandonné ». C'était un peu la période à la librairie où on nous vendait des bouquins sur Richard von Brandt et tous ces gens qui étaient dans les pays de l'Est et qui luttaient contre leur foi. Et j'avais pris celui-là parce que c'était un témoignage intéressant. Et donc lui, ça, qui était de confession juive, hein, était vraiment un homme d'une humanité extraordinaire. Il m'avait dit, mais là, avec la foi que vous avez, vous en aurez plein d'enfants. Et ça, je l'ai pris. Comme j'avais pris aussi mal la prof qui m'avait dit, vous serez bonne qu'à faire des ménages, ça, je l'ai pris. J'ai dit, ok, j'aurai des enfants. Voilà. Donc, trois beaux enfants. Et puis, lors de la dernière naissance, je me suis mal... Enfin, ma jambe s'est mal réveillée suite à la péridurale. Donc, je suis restée quelques mois sans avoir la sensation de ma jambe gauche. Donc, je ne pouvais pas faire ce qu'une maman doit faire quand elle a trois enfants. Ça a été une période assez terrible. D'abord parce que je souffrais énormément. Et qu'ensuite, j'étais... Voilà, je n'étais pas capable d'être une maman, donc j'avais la mienne qui venait m'aider, j'avais des amis qui venaient m'aider, j'avais un mari extraordinaire qui, malgré son boulot et ses départs et tout ça, était là. J'avais deux garçons qui grandissaient tranquillement, sans poser de soucis, un aîné qui était extrêmement autonome, enfin, tout ce qu'il fallait quand même, et choisir la vie. Quand on vous apprend, deux ans après, on m'a dit que j'avais une spondylarthrite, ça a été long de trouver qu'est-ce que j'avais. Je pense que je l'avais depuis longtemps, parce que je me souviens d'avoir eu mal au dos très très souvent, et même dans mon enfance, quand je faisais du piano, j'avais très mal au dos déjà. Mais bon, voilà, j'ai su ce que j'avais, donc ça a été un premier truc qui m'a rassurée. Et donc ça consistait, bon, après la jambe est revenue, il a fallu rééduquer, etc. Mais en fait, la spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire des articulations, et qui est une maladie évolutive, qui fait terriblement souffrir, et qui est une maladie évolutive dans le sens que plus l'inflammation gagne, et plus il y a une raideur qui se fait, et une raideur qui ne peut plus partir, quoi. Voilà. Donc du coup, qui fait que la vie n'est pas extraordinaire. Ça a été un coup. Comment choisir la vie? Comment choisir la vie? Ça a été un cheminement. Je dirais 4 ans pour comprendre et savoir un petit peu où j'allais avec ça, avec une grande culpabilité parce que je souffrais. Et ça, mon entourage ne comprenait pas que des fois je pouvais culpabiliser, mais enfin, c'est toi qui as mal, c'est pas nous. Mais c'est super dur quand on est une maman, une jeune maman, d'avoir ça. C'était difficile, quoi, ça faisait mal. La souffrance, c'est tout ce que ça prend comme énergie, comme force, comme isolement, quoi. Là, je suis en crise, par exemple, actuellement, pas là, hein, parce que je suis pas mal. Mais je suis dans une période de crise, hein, parce que c'est des périodes comme ça. Mais ces inflammations, elles sont terribles, hein, et elles vous isolent. Il y a eu des fois où avant qu'on trouve, parce qu'on a trouvé après de quoi me soulager, mais avant qu'on le trouve, ça a duré. J'étais, comment dire, quand j'avais fini ma journée, que mes enfants étaient couchés, que le repas avait été fait, vous savez, le minimum, là, j'étais là, bon, merci Seigneur, quoi. Jamais, jamais Jésus m'a fait défaut, jamais. Dans les plus moments, des fois, je pleurais tellement que j'avais mal. Et pourtant, je ne suis pas très émotive. Mais j'avais vraiment mal. Et des fois, je me souviens que le samedi, Loïc disait, bon, allez, on va sortir faire une promenade. Je me souviens des 2h30, 3h, là. J'avais mal. C'était le moment de reprendre un comprimé. Je savais qu'il fallait attendre une heure ou deux avant que ça fasse effet. Et les enfants avaient besoin de sortir. Et tout ça, là, qui a été vraiment une réelle difficulté. Mais sans Jésus, moi, je ne sais pas comment on peut vivre sans Jésus. C'était ma force, quoi. Jamais j'ai été révoltée, mais je crois que ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. C'est pas mon caractère de... Je suis révoltée sur des sujets, mais là, j'étais dans une paix extraordinaire de savoir qu'à la fois, il y avait un bouleversement de mon corps, une maladie incurable, qui ne faisait pas mourir. Je rassurais souvent mes enfants avec ça. Maman ne va pas mourir de ça. Ça ne fait pas mourir, mais ça fait que ça bouleverse une famille. Donc ça isole, ça rend seul, même si à l'intérieur je savais que Jésus était là, et peut-être plus fortement déjà, des fois quand je souffrais. Voilà. Et puis la culpabilité, voilà, de ne pas pouvoir donner à son entourage ce qu'on voudrait. Et surtout, la douleur, elle domine sur votre vie. À un moment donné, ça domine, quoi. C'est-à-dire que ça vous prend toute votre énergie. Vous pouvez à peine regarder la télé, prier, il n'en était plus question. Des fois, j'étais épuisée, ça épuise. L'énergie qu'on prend à attendre un soulagement, ça épuise. Ce que je pourrais dire de la douleur, c'est ça. J'ai été grandement bénie par les gens dans ma vie, comme ça, que Dieu a mis sur ma route. Et notamment, moi, pour moi, ce qui a été important, c'est le centre antidouleur, où ils ont considéré ma douleur et pas ma maladie. Et ça, pour moi, ça a été énorme, quoi. Et quand je pense à ce verset « Choisis la vie », c'était vraiment un désir pour moi de ne pas rester victime. Quand Jésus dit à l'aveugle qui est aveugle depuis, je crois, de naissance, « Est-ce que tu veux être guéri ?» Enfin, où Jésus avait beaucoup d'humour, où il était dans l'ironie, où, voilà, ben oui, il voulait être guéri, quoi. Mais Jésus nous invite et m'a toujours invité à ne pas rester victime d'une situation, victime de la mort d'un proche. Mais ça, c'est la force de Dieu, c'est pas ma force de caractère, vraiment. Parce que la force de caractère, il y a eu plein de fois où je pourrais vous démontrer qu'il n'y en avait pas. Mais si ma source, elle a toujours été en Jésus, j'ai toujours puisé dans sa parole qui a été annoncée, qu'on m'a annoncée, avec laquelle j'ai grandi, c'est là que j'ai puisé les choses, quoi. Donc, dans ce centre antidouleur, quand ce médecin m'a dit... vous avez toujours l'air de dire vous me dérangez pas, je suis très bien payée, je vais vous soigner, il avait beaucoup d'humour, on a bien accroché tous les deux, on a passé 45 minutes extraordinaires où il m'a parlé de ma douleur, et quand je suis ressortie de là, j'avais l'impression, une nette impression que Jésus, quand on lui porte notre douleur, c'est ça quoi, c'est pas la maladie, le nom de l'un, le nom de l'autre, mais cette douleur, cet isolement, moi ça m'a touchée. Donc il m'a mis sous morphine, 15 ans de morphine. J'ai pu éduquer mes enfants avec. Je suis assez philosophe là-dessus. Je ne suis pas trop branchée sur... C'était grave. De toute façon, avec ça, je pouvais vivre. Et là, ça a été un changement radical qui a duré 15 ans, puisque je m'en suis sortie de ma morphine en 2015. Parce qu'alors après, évidemment, ça fait des dégâts, c'est pas sans rien, bon bref. En tout cas, moi, ça m'a aidée et ça a adouci vraiment ma vie. Voilà ce que je peux dire sur la douleur. Donc, c'est pas fini. Il y a encore des poussées. Là, je suis en pleine poussée depuis le mois de mars. Ça fait mal. Ça fait mal la nuit. Mais à aucun moment je me suis sentie laissée par Jésus, à aucun moment Jésus m'a laissée tomber, à aucun moment. Ça, il y a une force, il y a une proximité, une connaissance de l'amour de Jésus, peut-être là, qui est vraiment extraordinaire. Moi, je bénis Dieu pour tous les moments qu'on a vécu, tous les deux avec Jésus, dans ces moments difficiles, quoi. Alors, choisir la vie, l'écolo continuer. J'avais toujours un mari qui me disait que j'étais loin d'être sotte, donc parce que aussi il fallait que j'occupe un peu mes plans, donc j'étais toujours engagée dans l'église avec l'écolo, toujours la force, tout ça. Et puis j'ai commencé et quelqu'un une fois qui est venu me dire une maman à la sortie à la fin d'une colo qui est venue me dire tu devrais passer le concours CPE, tu serais vachement bien, ça te correspondrait. Donc moi, si vous voulez, mes études s'arrêtaient quand même strict minimum, pas de bac. 6 mois d'école infirmière, et c'est à peu près tout, des BAFA, BAFD, tout ça, j'étais remplie, j'avais tous mes permis, parce que j'avais fait plein de petits boulots, donc j'étais pas de soucis, ménage, tout, j'avais tout fait, puisqu'elle m'avait dit que j'étais bonne qu'à faire des ménages, j'avais fait aussi. Donc tout ça, c'était bien, sauf qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose d'extrêmement démoli, qu'on n'imagine même pas. Et je m'intéresse un peu de près à ça, et j'apprends que quand on a 3 enfants, depuis les grandes féministes des années 70, avaient décidé un jour que 3 enfants nous donnaient une licence. Ça, c'était super. Ça m'a bien plu. Donc ça, c'était super intéressant. Donc j'avais une licence, bac ou pas bac. Voilà. Et donc j'ai démarré là. J'ai passé une première fois mon concours, qui était un concours difficile parce qu'il est très sélectif. On est 7000 au début, 6-7000, et on arrive 200. Donc si vous voulez, quand même, c'était un peu compliqué. Mais je me suis super passionnée par ce que j'apprenais, extraordinaire. Première année, j'ai réussi les écrits, contre toute attente, parce que là aussi, j'ai eu un prof super intelligent qui m'a dit... Quand vous n'avez pas fait beaucoup d'études, ça va être dur pour vous. Et ça, j'étais contente. Voilà, merci. Mais là, je ne me suis pas fait avoir 2 fois. Et donc, ça a été extraordinaire pour moi de pouvoir commencer à travailler. Parce que quand j'avais du coup mes écrits, j'ai pu travailler déjà comme contractuelle. Donc, je faisais des petits collèges, des lycées, tout ça. Bon, voilà, ce n'était pas très régulier au début. Je passais une deuxième fois, j'ai raté. Parce qu'à l'oral, j'étais mais bloquée. C'est-à-dire, il y avait un inspecteur d'académie, un chef d'établissement. Et moi, j'étais là... tu as une licence parce que tu as 3 enfants, fracassé de l'intérieur, on ne le sait pas, pour tous ceux qui font d'écolo, vous pensez toujours que je parle comme ça, que tout va bien. Non, non, fracassé de l'intérieur, vraiment. Et puis un jour, voilà, il y a une formatrice qui m'a dit, écoute, ça suffit, quoi, ça fait 4 fois que tu le passes, enfin 3 fois que tu le passes, la 4e fois sera la bonne, tu viens faire des jurys, tu vas te mettre à la place des autres, et tu vas voir que ça va fonctionner. Ça a été un peu le tilt, puis la grâce de Dieu a voulu que je persévère, que je sois soutenue par notamment mes enfants, mon mari et l'Église. Et ça a été un beau projet, et puis quand vous ouvrez l'écran, que vous cherchez vos résultats et qu'il y a marqué reçu, c'était cool. C'était une belle nouvelle. Et pour moi, c'était une restauration. Quand je parle de l'évangile de Jésus, c'est cette restauration dans les choses qui nous marquent dans notre enfance, dans les choses qui sont brisées, dans les choses que Dieu seul peut reconstruire. Je suis témoin aujourd'hui de voir combien c'est beau, quoi. Ma terre de mission, ce n'est pas le Bangladesh, vous l'aurez compris, mais ma terre de mission, c'est Jules Rému, le lycée professionnel où je suis et où j'ai tous les jours des élèves, plutôt des garçons, fracassés aussi, qui ont entendu « tu es bon pour ceci, tu es bon pour cela » et qui se révèlent parce qu'ils sont, voilà, ils sont extraordinaires. Et ça, c'est un beau boulot que Dieu me donne et une belle, comment dire, quand on, ça relie, voilà, les choses comme ça. Je vais avoir terminé. Alors, la mort de ma mère, elle arrive à un moment, il y a 13 ans, où elle avait... La mort de mes parents est une mort extraordinaire. Tous les deux croyaient en Dieu. Ils avaient donné leur vie à Dieu. Mon père avait été très touché en 58, avenue de Billy Graham, pour la petite histoire. Donc, je sais qu'il en parlait souvent. Voilà. Et ma mère est partie en milieu d'été, il y a 13 ans. Elle faisait donc l'écolo avec moi. Donc, c'était un support. On s'entendait bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Après m'être donné au Seigneur, mais on s'entendait très bien après. Vraiment, le Seigneur a rattrapé des moments que je n'avais pas eu avec elle. Elle est morte de manière très douce, très belle, dans une espérance incroyable. Elle avait mal au dos, elle avait mal un peu partout, elle avait de l'angine de poitrine, elle avait du diabète, enfin voilà. Mais bon, ça ne fait pas mourir immédiatement, et donc on l'hospitalise parce qu'elle avait une douleur qu'on ne comprenait pas. Et une semaine après son hospitalisation, elle m'appelle un dimanche, je vais la voir. Et puis elle me dit, il faut quand même que je te parle, on est seul, il n'y a personne. Jésus va me reprendre. Il ne me reprendra pas pendant ta colo, tu peux être tranquille, ça m'a rassurée. Mais il te reprendra après, il me reprendra après, voilà. Alors là, j'ai senti qu'elle rigolait pas, parce que je la connaissais bien, qu'elle était assez déterminée. Une femme quand même, qui quand elle disait quelque chose et elle le promettait, en général, elle le faisait. Et là, je me suis dit, oh non, pourtant je m'y étais préparée, je savais qu'un jour elle ne serait plus là. Ça a été, je descendais l'escalier de l'hôpital, enfin de la clinique, je me souviens en pleurant, mais c'était horrible, quoi. C'était, ça y est, ça arrivait, ce moment que j'avais attendu arriver, il fallait que ça arrive. Hein. Et à chaque visite, elle m'en parlait, quand j'étais seule, hein, on ne parlait pas quand il y avait les autres, et qu'à moi, j'avais ce privilège, mon frère et ma sœur ne l'avaient pas. Voilà, ça lui ressemblait bien là-dessus. Peut-être parce qu'on partageait la même espérance et qu'elle sentait ça. Et puis, voilà, j'ai fait des allées-venues, une colo difficile, parce que je faisais beaucoup d'allées-venues pour aller la voir. Elle a été après à l'hôpital, elle ne parlait plus, on lui a mis un truc, elle ne parlait plus, bon, bref, elle racontait un peu n'importe quoi. Bon. Et puis, il y a eu 15 jours, début août, où elle est revenue, dans un service classique et tout, et alors, personne ne croyait. Alors, elle a dit, je reviens, mais c'est juste pour te dire au revoir, dire au revoir à mes petits-enfants. Enfin, vraiment un truc inimaginable, quoi. Et des fois, elle me disait, enfin, maintenant, je ris parce qu'elle était belle, quoi. Elle me disait, mais comment tu crois que Jésus va venir chercher, je tends la main, je fais quelque chose. Il fallait toujours qu'elle fasse quelque chose, quand même, elle. Non, je lui dis, écoute, c'est-à-dire, je l'ai n'ayant pas vécu, je ne veux pas te le dire. Voilà. Mais après, je revenais apaisée parce que je savais qu'elle partirait. Voilà. Puis elle était marrante parce qu'elle était tout le temps... c'était des commerçants, mes parents, donc il fallait que le temps soit rentable. Vous voyez. Donc elle me dit, écoute, ta fille a 5 ans et demi, maintenant elle fait l'écolo, tu n'as plus besoin de moi pour l'écolo parce qu'il y avait Annie qui avait remplacé. Faisais un peu le tour, est-ce que j'ai besoin de moi? Plus personne n'a besoin de moi? Très bien, je peux partir. 75 ans, on l'aurait gardé, mais ses caractères, ses venoles, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien, parce que c'est des carafons, quoi. C'est des gens, voilà. Et elle avait décidé. Elle est partie avec son Seigneur le 16 août. Voilà. Et puis elle m'avait dit, quand je partirai, on m'a appelé lundi matin, en me disant, votre maman est en train de partir. J'avais bien dit que je voulais être à son dernier souffle, parce qu'elle m'avait demandé de lui lire le psaume 23. Je pense qu'elle ne l'a pas entendu, parce qu'elle était déjà partie. Mais j'ai lu le psaume 23, et puis on a débranché, enfin, voilà, le dernier souffle. Et moi, j'ai été privilégiée. Ni mon frère ni ma soeur sont venus parce qu'ils craignaient l'hôpital. Ils craignaient de voir des gens morts. Donc, toujours un petit peu comme ça. Mais c'est pas grave. C'était un temps de grâce. Voilà. On l'a enterré. Et puis, il y a eu l'après. Et là, il y a eu... comment dire, à la fois la consolation d'une même espérance et de dire elle est avec Jésus. Je me souviens, j'avais pris mes enfants par la main au cimetière et puis dans le trou, je disais, mais elle n'est pas là, quoi. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas là. Quand elle est morte, elle n'était pas là. Il y a cette dimension forte de l'espérance qui porte et qu'on ne peut pas fabriquer intellectuellement, que Dieu donne à ce moment-là, d'une espérance forte, quoi. Et voilà. Mais à la fois, j'ai crié, quoi. Ça a été dur. Les débuts ont été très difficiles pour moi, très difficiles pour moi. Et puis, petit à petit, je retrouve la photo, je la vois, je pleure moins. Voilà, évidemment, 13 ans après, c'est plus facile de le raconter. Je terminerai en disant « Choisis la vie ». Je crois qu'elle avait choisi la vie. Je crois que Dieu m'a fait l'honneur d'avoir deux départs, d'un père et d'une mère comme ça. Ça bouleverse une vie, ça la marque, évidemment. Je n'ai pas peur de la mort, bien évidemment, parce que ça porte. Je voudrais terminer par... quelque chose de puissant. Dieu ne parle pas forcément que par les deuils, il ne parle pas forcément que par ce qu'on fait de pas bien, il ne parle pas forcément par la maladie, il parle aussi par ce qui est beau. Et je trouve que quand Dieu nous porte comme ça et nous montre les belles choses, avec tout ce qu'on a traversé avec Loïc, de difficile, de temps de crise, de temps de bonheur, de naissance de nos enfants et de temps de difficultés réelles, là, aujourd'hui, je dirais que c'est merveilleux, 1er octobre 2017, de pouvoir voir Dieu au travers du respect, de la tendresse, de l'amour d'un mari, de ce qui me porte et qui me porte tous les jours, et de décoder quand j'ai mal et qu'il voit que je ne le dis pas et qu'on est pudiques tous les deux et qu'il me fait croire qu'en arrivant du boulot, il aime faire le repas alors qu'il est fatigué. Et voilà, et toute cette tendresse-là, et remercier mes trois enfants, trois cadeaux. Souvent, quand on me demande l'âge de mes enfants, un peu moins maintenant, mais au début, on me disait, alors, ah oui, c'est quel âge ont tes enfants? Alors, je sais pas, j'ai 15, 17, 19, oh là là, ma pauvre, oh, l'âge le plus terrible. Trois cadeaux, voilà, trois cadeaux de la vie, merveilleux, avec pas compliqué à éduquer, tranquille, aimant Jésus, ça c'est extraordinaire, tous les jours, je bénis Dieu pour ça. Voilà, et je les remercie pour tout ce qu'ils ont traversé avec moi, de difficultés aussi, et de pudeur qu'ils ont à faire beaucoup d'humour. On fait beaucoup d'humour dans la famille, ça nous aide à porter des choses difficiles. Je remercie toutes les amies, elles se reconnaîtront. Et j'en profite parce que je me suis dit, le jour du baptême, il y a longtemps que je me suis fait baptiser, le jour de mon mariage s'est passé, le jour de ma mort, je ne le dirai pas. Donc, j'en profite pour remercier les amis qui m'ont porté vraiment et qui, sans jugement, m'ont accompagnée d'une manière ou d'une autre et qui le font toujours. Et à mes nouvelles amitiés, qui sont toujours des cadeaux de la vie extraordinaires. Je remercie Dieu pour le travail qu'il m'a donné, qui est un travail passionnant, merveilleux. J'y vais en chantant. Et mon chef me dit chaque fois, je crois que vous êtes la seule à venir en chantant. Mais c'est beau, quoi. C'est magnifique. J'ai un boulot super. Choisis la vie. Et je vous invite à prier là un moment et à vraiment tourner le regard vers ce Dieu de la vie. Jésus, je te bénis pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que ta parole dit de toi. Et choisir la vie, c'est te choisir toi, Jésus. Pleinement, sans contrainte, répondre à ton invitation, parce que tu nous invites tous les jours à te suivre, tous les jours à déposer nos fardeaux, nos craintes, nos questionnements, nos choses difficiles, tout ce qui a été construit, tout ce qui a été démoli. Tu es venu restaurer, tu es venu sauver, tu es venu partager ta grâce, et tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tu es venu avec une puissance aujourd'hui encore effective, Seigneur. Et je te bénis pour la révélation de ton amour pour chacun d'entre nous, là où nous en sommes. Et Jésus, je te rends grâce infiniment pour ta fidélité. Amen.
Waouh. Choisir la vie. Voilà ce qu'il nous a proposé ce matin. Choisir la vie. Et vous savez, quand Jésus rencontrait des personnes pendant sa présence sur terre, quand il rencontrait un aveugle, quand il rencontrait quelqu'un qui avait besoin d'être accompagné, d'être béni, souvent il y avait un acte concret qui suivait. Pour l'aveugle, par exemple, il y avait de la boue, etc. Il y a un acte concret. Ce matin, je voudrais vous proposer, dans le prolongement de ce qu'a dit Hélène, de choisir la vie. Et je voudrais vous inviter peut-être à fermer les yeux et à répondre à cette invitation de choisir la vie. Et beaucoup de choses très importantes ont été dites par Hélène. Peut-être qu'on a dit des choses compliquées sur toi, qui t'ont enchaîné parfois. Et ce matin, tu veux savoir ce que Dieu dit de toi. Il nous a été dit qu'il nous a aimés le premier, que nous avons été désirés. Peut-être que tu ne t'es pas senti désiré. Il nous a été dit aussi que Jésus était la paix. L'invitation nous a été faite de lâcher prise, de recevoir cette force de vie, choisir la vie ce matin. Tu veux que ça bouge à l'intérieur. Et comment choisir la vie? Eh bien, demander à Jésus de venir. Et il le fait. Alors qu'on soit ce matin, là, pour la première fois dans une église, choisis la vie. Qu'on soit peut-être chrétien depuis de longues années, choisissons la vie ce matin. Et cette invitation à choisir la vie, nous demandons à Jésus de venir, il va le faire. Des choses ont résonné ce matin dans vos cœurs, dans nos cœurs. Et si ce matin on veut choisir la vie, je vous invite simplement à lever votre main. C'est cet acte concret que Dieu regarde, que Jésus regarde. Et il va venir, il va le faire pour chacun de nous. Quelle que soit la situation que tu vis ce matin, tu peux choisir la vie. Quelle que soit la situation que tu présentes à Jésus ce matin, il peut venir parce qu'il est la paix. Alors, on va fermer nos yeux, on continue à fermer nos yeux et on va lever nos mains pour manifester de manière concrète que nous choisissons la vie ce matin. Amen. Je laisse encore quelques minutes pour manifester concrètement ce choix de vie ce matin. Seigneur, je te remercie pour toutes ces mains levées et je te remercie parce que de cet acte concret, tu viens. Sur cet acte concret, sur cette invitation, tu réponds toujours aux invitations, Seigneur. Et que ce soit pour une restauration, pour un changement de vie, pour cette oasis dans le désert que nous pouvons traverser, tu es là parce que tu nous connais parfaitement. Et Seigneur, je te demande maintenant une bénédiction particulière pour toutes les personnes qui se présentent devant toi parce que tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Et tu souhaites que cette vie, nous l'ayons en abondance. Merci pour ce choix de vie pour beaucoup ce matin. Merci pour ce choix de renouvellement d'espérance ce matin parce que tu le fais, Seigneur. Nous avons toute confiance en toi. Amen. Amen. Et si vous souhaitez qu'on prie pour vous à la fin du culte, si vous souhaitez être accompagné, je vais demander à Gérard de venir nous expliquer de quelle manière, si vous découvrez la foi, on peut aussi vous accompagner. Et en 2 minutes, Gérard va nous expliquer tout ça.
Alors face à ce témoignage, vous avez des questions que vous vous posez. Et nous avons donc un parcours qui vous est proposé pour vous qui n'êtes pas peut-être croyant ou croyant de loin. Eh bien, vous pouvez donc venir à ce parcours pour découvrir ce qu'est la foi chrétienne. Et donc nous voulons vous encourager à venir. Donc ce parcours se passe le jeudi soir. Donc vous serez accueillis par un repas à 19h30, donc le jeudi soir. On mange ensemble, ça crée des amitiés. Après, vous avez donc un petit enseignement sur les bases de la foi chrétienne et un groupe de discussion, justement, où vous aurez la possibilité de partager comment vous ressentez les choses. Et ce qui est intéressant, c'est ce partage où chacun se livre, dit ce qu'il pense réellement. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. Mais ce qui est formidable, c'est les amitiés qui se créent au fur et à mesure des soirées. Alors, vous engagez à venir simplement une soirée qui aura lieu donc jeudi soir de ce jeudi et qui a pour thème pour vous qui est Jésus. Et après, vous allez pouvoir discuter entre vous pour savoir qui est Jésus. Et puis, donc vous venez voir. Je vous encourage à venir voir. Et puis, vous allez voir que semaine après semaine, des amitiés vont se créer. Vous allez avoir la réponse à votre questionnement.
Merci beaucoup, Gérard. Et je voudrais simplement, si vous souhaitez aussi qu'on prie pour vous, peut-être à la fin du culte, que les responsables de l'église se lèvent et les responsables des réunions maison, que vous localisiez les personnes que vous pouvez venir voir en plus de la table alpha que vous trouverez à l'extérieur. Alors on se lève pour qu'on vous localise, responsables de réunion maison et les responsables de l'église. Voilà, toutes ces personnes sont vraiment à votre disposition pour vous accompagner, prier pour vous si vous en avez reçu la conviction ce matin et l'envie. Voilà, soyez bénis. Alors pendant ce beau chant maintenant, je vous propose un temps d'offrande. Alors c'est quoi l'offrande? C'est un temps où notre amour, nous le manifestons concrètement au travers de nos finances. Vous savez, vous ne le savez pas, mais la loi de 1905 fait que les églises ne sont pas subventionnées, loin de là. Et ce sont les fidèles, simplement, qui permettent le fonctionnement de l'église. Alors évidemment, ce temps d'offrande est réservé plutôt aux personnes de l'église. Si vous aviez à cœur de nous soutenir, avec grand plaisir, mais ne vous sentez surtout pas obligé quand la boîte va passer. Ça concerne quand même prioritairement les gens d'église. Une boîte jaune va passer si vous avez à cœur de soutenir le beau projet d'église. Vous pouvez. Voilà un beau chant.
Je ne sais plus où aller, quand mon esprit s'est égaré. Viens me prendre par la main. Quand je n'ai pas su écouter, quand comme un père tu m'as appelé, ramène-moi sur le chemin. Même si les mots ne suffisent pas, je viens te dire tout mon amour avec mes louanges et mes prières. Oh, 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 oh. Mon cœur est si reconnaissant, mon visage est resplendissant, bercé par le son de tes je t'aime. Même si les mots ne suffisent pas, je viens te dire tout mon amour avec mes louanges et mes prières. Oh, 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 oh. Mon cœur est si reconnaissant, mon visage est resplendissant, bercé par les sons de tes je t'aime. Je ne l'ai pas mérité, pourtant tu me l'as accordé. Maintenant je suis ton fils. Tes projets pour moi sont parfaits, tu avais tout médité, afin que je vive en paix. Même si les mots ne suffisaient pas, je viens te dire tout mon amour avec mes louanges et mes prières. Oh, 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 mon cœur est si reconnaissant, mon visage est resplendissant, bercé par les sons de Jésus, je t'aime. Même si les mots ne suffisent pas, je viens te dire tout mon amour avec mes louanges et mes prières. Mon cœur est si reconnaissant, mon visage est resplendissant, bercé par les sons de tes je t'aime. C'est dans tes bras que je veux demeurer, toi seul peux m'offrir l'éternité, et je veux te louer. C'est dans tes bras que je veux demeurer, toi seul peux m'offrir l'éternité, et je veux te louer. C'est dans tes bras que je veux demeurer, toi seul peux m'offrir l'éternité, et je veux te louer. Même si les mots ne suffisent pas, je viens te dire tout mon amour avec mes louanges et mes prières. Mon cœur est si reconnaissant, mon visage est resplendissant, versé par le son de tes je t'aime.
Merci. Voilà, nous arrivons à la fin prochaine de notre culte, mais un temps important, le temps de quelques annonces de vie d'église et d'événements à venir. Alors, déjà vous informer du départ de Pierre Jacquin à Madagascar pour une mission. Donc, prions, portons dans nos prières Pierre, hein, notamment pour son état de santé et toute l'organisation de son voyage. Donc, on pense fort à Pierre. Dans ce voyage missionnaire. Vous informer du week-end Collège Biblique Centre Martin Luther King avec notamment Jean-Marc Potenti qui nous fera le plaisir d'être là. On rappelle la date, Pascal ? Dans 3 semaines, je crois. Ah voilà, bah, c'est marqué là, excusez-moi. Je regarde toujours l'écran là-bas, j'ai pas encore imprimé, quoi. Voilà. Donc, écoutez, réservons ces dates, 19 au 22 octobre. Jean-Marc Potenti, quelqu'un vraiment de super qu'on connaît déjà bien à l'église mais que je vous invite vraiment à découvrir. Le parcours alpha qu'on a, dont Gérard nous a parlé, une table se tient à votre disposition pour plus de détails dès la sortie. Vous parlez un petit peu de musique, vous aurez un festival qui s'appelle le festival Reveals, le premier festival à Montpellier à l'église de la Clé, où nous aurons le plaisir de nous produire avec la Nadal Family. Donc si vous souhaitez venir nous encourager, on est preneurs. Samedi, vous avez une affiche à la sortie, donc écoutez, soyez les bienvenus. Et à ce propos, puisqu'on parle d'art et d'artistique, vous avez vu qu'il y a pas mal de productions dans l'église, la dernière étant Cet écho, hein, vous avez pu acquérir l'album sur quelques dimanches. Alors, plusieurs fois qu'on parle de mettre maintenant de manière un peu plus pérenne les productions de l'église à votre disposition. Comme ça, si vous aviez oublié d'en acheter un, vous pourrez vraiment vous les procurer. Donc c'est Sylvie, elle est où Sylvie ? C'est Sylvie, notre maître d'œuvre, qu'on applaudit s'il vous plaît. Et que vous verrez très accueillante, parce que Sylvie, l'accueil est Sylvie, comment dire, c'est un pléonasme. Hein, et donc Sylvie se tiendra à votre disposition avec son grand sourire et pourra vous parler un peu des différentes productions. Et au fur et à mesure des nouvelles productions, on essaiera d'alimenter. Et puis, vous savez que vous êtes nos premiers soutiens, honnêtement. Donc, c'est super que vous puissiez soutenir en écoutant les belles productions. Donc, il y a eu Cet écho, il y a eu Forger, et il y a eu donc Nadal, Family, Melody of My Soul. Voilà. Et Ben, je crois, a une annonce. Il était sur le starting, de dire, va-t-il oublier ?
J'ai une super annonce qui concerne les jeunes adultes. Donc, à partir de 18 ans jusqu'à 25, 26... 35 des fois, hein, 46. Donc les jeunes adultes, on se retrouve vendredi 19h30, vendredi 6 octobre à 19h30 ici, pour une super soirée tous ensemble. Venez, il y a à manger, c'est gratuit. Voilà, c'est les meilleurs arguments que j'ai, je pense. Des pizzas gratuites, Donc tous les jeunes qui ont faim, venez et on va se régaler, ça va être cool. Donc vendredi 6 octobre 19h30, il y a un événement Facebook. Alors c'est très facile, vous sortez vos téléphones qu'on sort pendant le message, hein, on va le dire, et on met « Je participe », ok ? Oui, mais bon, on ne les range plus. Vendredi 19h30, venez, ça va être super.
Alors, n'y voyez pas là une invitation à ouvrir les portables pendant le message, attention, hein. Attention. Hein. Ok, merci beaucoup. Alors, ce mot de conclusion, choisissons la vie, amen, mes amis. Ok, choisissons la vie, que cette semaine soit pleine de la vie de notre Seigneur. Invitons Jésus dans notre quotidien, soyez bénis.
Donne la joie, donne la paix, donne la puissance dans la louange. Donne la joie par le Saint-Esprit. Christ nous a franchis pour la liberté, que tous les obstacles soient balayés. Donne la joie par le Saint-Esprit. Proclamons, proclamons dans les lieux célestes de Dieu qui nous tient fait. Annonçons Jésus dans les nations. Tous le verront, tous entendront, tous comprendront le message. Donne la joie, donne la paix, donne la puissance dans la louange. Donne la joie par le Saint-Esprit. Christ nous a franchis pour la liberté, que tous les obstacles soient balayés. Donne la joie par le Saint-Esprit. Oui, donne la joie.
Semaine. Et n'oubliez pas l'apéritif, pardon, juste après là. On se retrouve là-bas.